au premier étage. Je te réunis en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionce dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà, tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit, allez, les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée sur Fréquence Paris Pluriel. Vendredi 10 juillet de 19h donc à 20h30, on est avec vous. Je n'ai pas du tout les contacts.
Mais moi, je les ai, donc ça tombe bien. Pour nous écrire, c'est à l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez nous joindre toute la semaine en nous laissant des messages, des messages sur le répondeur ou sur les applis sécurisés au 07 53 10 31 95. Pour nous appeler en direct, mais il y aura un appel, mais vous pouvez quand même nous appeler. Et si ça ne tombe pas pendant l'appel, on vous répondra au 01 40 05 06 10. On a un site internet qui est l'envolée.net. On peut nous joindre par mail à contact@l'envolée.net. Et on est aussi sur Insta à l'envolée-journal.
Et l'Envolée, c'est quoi ? Donc l'Envolée, c'est une radio et un journal qui se fait le porte-voix des prisonniers et des prisonnières et qui construit donc un discours anticarcéral sur les lieux d'enfermement, mais aussi sur la société en général, avec donc les premiers et les premières concernées. Et donc on parle à la fois des prisons pour mineurs, des CRA, mais aussi des hôpitaux psychiatriques, donc de tous les lieux d'enfermement. Et ce soir, on a une émission qui est un petit peu chargé.
On a une grosse émission, ouais. On a beaucoup de choses dont il faut qu'on discute. D'abord, on va lire deux lettres, une de Pascal et une de Kémy. On aura aussi un appel d'une proche d'un prisonnier de Lutterbach qui est actuellement dans le coma. Et donc, on va aussi parler à cette occasion-là de toutes les conséquences de la canicule en prison et plus généralement des refus de soins en prison et de toute la manière dont la paix se comporte dans ce genre de situation. Ensuite, on va parler du QLCO de Condé-sur-Sarthe, puisqu'il y a un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui est sorti et qui dit globalement un peu pas mal de choses qu'on racontait déjà dans l'envolée dans le dernier numéro et qu'on a aussi beaucoup dites à la radio. Donc, c'est aussi l'occasion de revenir sur tout ce qui se passe de super grave dans les QLCO en ce moment. Et pour finir, on va parler d'un procès qui aurait dû se tenir le mercredi, c'est ça ?
8 juillet, ouais,
c'est ça. 8 juillet au tribunal de Paris, qui était le procès de Richie Thibault pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il a pas mal critiqué virulemment l'État et voilà, une copine qui y était nous racontera un petit peu ce qui s'y est passé.
Et on a oublié de se présenter. Du coup, il y a Inès.
Salut.
Autour de la table. Il y a une personne au bocal qui va nous rendre un super coup de main. Merci à lui d'être là. Et il y a aussi donc Zéro qui vous salue ce soir.
Et ouais, donc grosse émission, mais on n'est pas très nombreux, mais on va quand même faire cette grosse émission. Voilà, et donc on va commencer quand même si on a beaucoup de choses à dire, on va quand même commencer par des lettres, et notamment par une lettre de Pascal qu'il nous a envoyée depuis la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, c'est pas la bonne que j'ai sous les yeux, pardon. Le 11 juin 2026, désolé pour le petit bug. Un amical bonjour à toute l'équipe de l'Envolée. Effectivement, l'histoire de la centrale de Saint-Martin-de-Ré peut faire peur. Le site était nommé pénitencier il y a fort longtemps. À quelques années après, j'allais partir au bagne et rencontrer Papillon. Que peut-on avoir à envier sur l'île de Ré, qui n'a rien de doré pour nous, les taulards ? Il n'y a que les touristes qui s'éclatent. En effet, ce retour ici est plutôt compliqué. Retrouver ces murs oppressants. La cage est si petite que pour circuler, il faut prendre des risques. Les sanitaires, si je puis me permettre, la table, le lit, la chaise prennent quasiment tout l'espace au sol. Lorsque j'ai l'occasion d'être en hauteur, je peux apercevoir la ville, l'océan, la vie. Je prends un énorme coup de massue. Un choc même, car je sais ma famille très proche. Cela ravive des images qui peuvent devenir douloureuses, en sachant en plus que je pourrais être encore libre si je n'avais pas eu affaire avec une justice extrêmement répressive, totale répression. Il faut garder son humour et le peu de dignité qui nous est accordé. L'envie de baisser les bras me vient parfois, mais j'ai gardé mon âme guerrière, combative. Je me suis trouvé un symbole, comme un message, une guillotine. En plus, je garde précieusement le livre que vous m'aviez fait parvenir, « La peine de mort n'a jamais été abolie ». Le témoignage des autres détenus est fort, poignant, même effrayant. La question est de savoir combien de temps il est possible de résister, malgré de trop longues années derrière ces fichus barreaux. Il y en a qui pensent qu'on s'habitue à l'enfermement, surtout après 37 années. Désolé d'en décevoir quelques-uns, mais ce n'est toujours pas le cas. L'épuisement, une sorte de solitude malgré la famille, les amis dont vous faites partie d'une certaine façon, et merci pour votre présence. J'ai du mal à reconnaître les lieux, tout a changé, les prisonniers, oula, pas toujours facile de cohabiter. En plus ici, il y a beaucoup de jeunes condamnés à de courtes peines, je dis courtes car comparé 5 ans et perpétuité, le décalage est grandiose. Profil des taulards, plus le personnel qui évolue différemment d'il y a 15-20 ans. J'ai pu recroiser des surveillants qui eux-mêmes confirment que tout a changé et pas forcément en bien. Quelques vieux potes, et qui me racontent que pour eux, l'ambiance est nulle, tout a changé et trop vite. Et parler de l'humain, ça risque d'être délicat, au fond. Concernant ce que l'AP qualifie de transfert, je dois dire qu'avoir quitté Réau est un soulagement. Mais Saint-Martin n'était pas mon objectif, je visais Vivonne, où j'ai passé plus de 7 années. Mais je n'ai plus le profil, m'a-t-on dit. La paix regarde la peine avant de s'intéresser à l'homme, à la femme, puisque cet univers est mixte. Lors de mon séjour à Vivonne, j'occupais un poste de grande confiance, de très grande confiance même. Ce sujet mérite d'être approfondi. Vous vous rendez compte, un vilain garçon qui circule dans toute l'atoll, dans toutes les catégories de bâtiments, tournevis en main, jusqu'à aller prendre un café chez mes copines de la MAF ou du centre de détention pour femmes. Enfin, quelques rares moments réconfortants. L'île de Ré, La Rochelle, il n'y a qu'un pas à faire, ou plutôt un pont à franchir. Et ça aussi, c'est un choc. Imaginez que mon peu de vie de liberté, c'est dans cette ville que je l'ai construit. Je me suis rapprochée de ma famille, j'ai reçu la visite d'une de mes sœurs, ne manque plus que mon fils. Des amis, j'en avais, mais bon nombre m'ont tourné le dos, ayant eu écho de mon passé et mon présent destructeur. À très bientôt, Pascal.
Eh ben, merci beaucoup, Pascal, pour cette lettre. On apprend dans cette lettre, on n'avait pas relu de lettre de Pascal depuis qu'il avait été transféré à la centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Je crois qu'on en a lu une. C'est une émission du Sud, mais il y en a une qui a été lue, ouais.
Et ben du coup, on en a eu l'une, mais là, Pascal, il revient juste sur en fait ce que c'est cette centrale de base, en fait, c'est la centrale de Saint-Martin-de-Ré, qui est une vieille, très 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 vieille prison qui a ouverte. Bon, là, j'ai retrouvé les chiffres en 1681, qui a toujours servi de prison. Au début, on enfermait à l'intérieur les protestants, les prêtres et les communards. Et ensuite, donc, il parle à un moment, et dans sa lettre, il évoque le bagne. Donc, ça n'a jamais réellement été un bagne, mais en fait, c'était un point d'étape pour ensuite aller au bagne réellement, donc en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et en fait, cette prison, ça a fonctionné donc un peu point d'étape, je ne sais pas comment vraiment dire, mais voilà, avant le bagne, de 1873 à 1938. Et il y a environ entre 70 000 à 100 000 détenus qui seraient passés par cette prison. Donc elle est gigantesque. C'est une des plus grosses, enfin c'est la plus grosse centrale de France, avec aujourd'hui donc 485 prisonniers à l'intérieur. Et du coup, tout ça pour vous dire aussi que en fait les vieilles prisons, elles sont aussi vieilles dans leur construction et dans la manière. Donc c'est ce qu'ils racontent en fait très bien. Donc dans la manière dont sont foutues à la fois les cellules, les couloirs, les toilettes. Et donc c'est des trucs. Le but de l'administration pénitentiaire n'est pas d'améliorer les conditions de détention à l'intérieur. Donc, en fait, souvent, ils ne refont pas et ils laissent les trucs se délabrer de plus en plus, ce qui donne des conditions d'hygiène et tout. Et c'est ce qu'ils racontent assez hardcore, quoi. Pascal, il raconte beaucoup aussi de cette situation de prisonnier longue peine qu'on a relayée à travers bientôt plusieurs années, quand même, en fait, quelques années, quoi. Il parle de cette situation-là, donc ces multiples transferts, lui, il a attendu énormément, là, à Réo. Simplement pour être un peu honnête dans cette lettre, quand tu dis, tu compares, les jeunes condamnés que tu vois arriver en centrale, qui sont là pour 5 ans, et le fait que toi, tu y es pour le reste de ta vie, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'état de comparaison, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a personne qui remet en cause que le fait de passer... de rester en prison toute sa vie et d'être pour toute sa vie, particulièrement abominable et qu'en fait on ne devrait pas vieillir et mourir en prison. Prendre 5 ans à 20 ans aussi, c'est en fait 5 ans, c'est pas une petite peine. Je sais pas s'il y a petite peine en fait, l'enfermement, et surtout à 20 ans, il peut être particulièrement traumatique. Et du coup, ça rejoint aussi ce que nous disait beaucoup Mika. Dans différentes lettres, c'est-à-dire que en fait les prisonniers longue peine avec qui on correspond à l'envolée nous racontent tous en fait qu'aujourd'hui dans les centrales on voit de plus en plus arriver de jeunes, de très jeunes, de gens qui ont 18-20 ans et qui sont pas forcément là que pour 5 ans, qui sont là des fois pour plus, qui prennent des peines, Camille disait, qui prennent des peines de 5-10 ans. Et que c'est ça aussi en fait la justice qui les fait arriver jusque là, c'est-à-dire qu'à des gens de 20 ans on va mettre des 10-15 ans pour des trucs en fait sur lesquels en fait ils auraient pris 5 ans il y a 15 ans, en fait il y a aussi un allongement des peines et ce qui fait que du coup de plus en plus de jeunes arrivent en centrale, ce qui n'était pas tant le cas avant en fait. Ce que racontent du coup les anciens, c'est qu'en fait avant ils se connaissaient un peu tous et c'était plutôt des gens qui étaient des prisonniers longue peine et qui tournaient en centrale, dans différentes centrales. Et que là, il y a énormément de jeunes qui arrivent, donc c'est un peu flippant. Et du coup, ça change aussi beaucoup de choses à l'intérieur, quoi.
Ouais, carrément, je pense que... Enfin, je suis tout à fait d'accord, en fait. Qu'on en vienne à dire que 5 ans, c'est presque une petite peine, en fait, ça dit beaucoup de ce que c'est l'allongement des peines depuis pas mal de temps, et notamment sous l'effet de la loi narcotrafic. Et c'est important de revenir sur l'histoire de cette prison de Saint-Martin-de-Ré. Il y a aussi une histoire plus récente, dont on a beaucoup, beaucoup parlé à l'Envolée récemment. C'est quand même une prison qui a été connue dans les années 2010 pour avoir une équipe de matons, dont une partie est encore en place, particulièrement violent, qui avait été épinglée à plusieurs reprises par l'OIP, CGLPL, etc., pour cette équipe de matons très violent. Et notamment, c'est une équipe qui est responsable de la mort, de Sambali Diabaté, dont on a beaucoup parlé à cette antenne et dans les différents journaux, qui a été battu à mort et après traité d'une façon ignoble, ce qui a fait qu'il est mort en détention.
Placé sous un lit, ouais. En attendant qu'il se réveille, en se tapant la tête. En fait, il ne s'est jamais réveillé, quoi.
Ouais, donc une série de traitements, je pense que déshumanisant et presque, enfin, et même pas suffisant pour dire à quel point ça a été ignoble. Donc voilà, c'est aussi ça l'histoire de la prison de Saint-Martin-de-Ré. Et suite au procès, enfin, simulacre de procès qu'il y a eu, faut signaler quand même qu'une partie de l'équipe qui a battu à mort Sambali Diabaté est toujours en place, quoi. Donc c'est ça aussi, hein, cette histoire de la prison de Saint-Martin-de-Ré. Et tu as aussi raison de souligner à quel point c'est atroce et difficile de avoir les touristes qui font du vélo et qui s'éclatent à la plage quand toi tu es coincé derrière les barreaux. Encore plus, et on va en reparler tout à l'heure, dans cette période de canicule, on sait que l'ouest de la France n'a pas du tout été épargné, bien au contraire. Et on espère que ça n'a pas été trop dur là-bas. Et moi, un des autres trucs sur lesquels je voulais revenir dans ta lettre, c'est quand tu parles de Poitiers-Vivonne et du travail que tu avais qui te permettait de circuler dans toute la détention, etc. Et ça permet de redire à quel point aussi c'est... important et à quel point c'est un moyen justement pour la paix, pour faire pression sur les gens, cette question du travail. On voit que toi, ça te permettait en fait concrètement de sortir de ta cellule, d'être en contact avec d'autres personnes, y compris dans la MAF, etc. Et donc, on voit bien à l'échelle de la privation totale de liberté qu'est la prison, ce que toi, ça a pu t'apporter. Et enfin voilà, c'est aussi une manière de redire que tous ces tafs, et notamment le taf d'Oxy, c'est-à-dire quand tu travailles pour la prison, c'est à la fois une exploitation et un moyen pour la prison de fonctionner, enfin, tu vois, sur le dos des prisonniers qu'elle enferme et qu'elle exploite. Et ça offre aussi des moments de respiration, on va dire, par rapport au quotidien carcéral. Et donc là, on comprend hein, que si toi, ton objectif, c'était de retrouver un peu ça à Poitiers-Vivonne, Saint-Martin-de-Ré, c'était un second choix et donc c'est toujours mieux d'avoir quitté Réau, mais on comprend que ce soit très amer pour toi comme constatation, quoi.
Bon, en tout cas, on te souhaite plein de force et on continuera du coup de relayer de ce qui se passe pour toi du coup dans cette centrale et puis on te souhaite plein de force comme tout le monde, comme tous les prisonniers intérieurs pour la chaleur.
Ouais. Et... force à toi, Pascal, et encore merci pour ta lettre.
Et donc, je vais vous lire une lettre de Kémy, qui date de l'été 2026, et qui donc nous écrit depuis le QMC de Moulin-Isère. 25 juin 2026, 5h56 du matin. J'entends les mecs parler par la fenêtre, et ce qu'ils me disent me glace le dos. Léon, 72 ans. Est parti ce matin aux alentours de 6 heures d'une crise cardiaque à cause de la chaleur. Léon, que tout le monde appelait le vieux, cet homme nous a quittés. Je suis très triste, mais aussi en colère. Comment un homme de son âge peut encore être enfermé? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de surveillance le concernant en sachant la canicule que l'on traverse? 45 degrés dans les cellules? Aucune aération. Dans les hôpitaux, c'est pareil. Sérieux ? On laisse des êtres humains mourir et tout ce que l'on entend, c'est politiquement, la clim, c'est bien ou c'est pas bien ? En gros, si t'es hospitalisé ou si t'es vieux ou en prison ou en psy ou en foyer ben, tout le monde s'en bat les couilles. C'est la dure réalité. Moi, je raconte la prison. C'est mon quotidien. C'est à la centrale de Moulins-Isère que Léon nous a quittés. J'en reviens toujours pas. C'est une honte. Laisser un papy s'éteindre seul dans une cellule de 9 mètres carrés. Ce qui me choque le plus, c'est le silence mortel qui règne depuis ce matin. Mais pas que par rapport à Léon. Non, à cause de la chaleur. Tout le monde s'en fout de Léon. Rendons hommage à Léon. Paix à ton âme. Repose en paix, papy. Tu nous as enfin quitté ces quatre murs. Kémy.
Bah écoute, Kémy, merci beaucoup pour cette lettre qui est hyper dure et condoléances aux proches de Léon à l'intérieur et à l'extérieur. Je pense que cette lettre montre les conséquences absolument tragiques de la canicule en prison, parce que là, voilà, on rappelle qu'on en est aujourd'hui le 10 juillet à la troisième vague de chaleur depuis un mois et demi, donc on les enchaîne avec quasiment pas de pause. Et voilà, c'est super dur pour plein de gens à l'extérieur, les gens qui habitent dans des logements mal isolés, sans volets, etc. Kémy a raison de dire que c'est super dur aussi dans les hôpitaux, dans les hôpitaux psy, dans plein d'endroits où y a plein de gens qui n'ont pas d'autre choix que d'être là et où c'est pas du tout également adapté à la chaleur. Et quelque chose qu'on oublie beaucoup et qu'on entend très peu le débat, dans les discussions actuelles, c'est la situation en prison. Par exemple, peut-être, je ne sais pas si on pourra beaucoup en parler à la fin de l'émission, mais là, par exemple, il y a 115 prisonniers de la maison d'arrêt de Nîmes qui portent plainte contre l'administration pénitentiaire pour plein de raisons liées aux conditions de détention et au surenfermement, qui sont absolument ignobles, mais notamment parce qu'on a enregistré en température ressentie à l'intérieur de la maison d'arrêt de Nîmes 50 degrés. Et en fait, ce n'est pas du tout un cas isolé, c'est un cas qu'on retrouve partout. Et en fait, dans la gestion de cette canicule, c'est vrai à l'extérieur et c'est poussé à une logique extrême et particulièrement cruelle à l'intérieur. En fait, c'est presque une, c'est une logique hyper glaciale, quoi. C'est-à-dire que on a accepté, un peu comme pendant le Covid, qu'en fait on allait laisser crever des gens de la canicule, qu'on n'allait pas faire les efforts nécessaires pour changer ça ou pour adapter les bâtiments, etc. Et donc on admet qu'il y a un coût humain à la canicule. Donc là, voilà, ils ont dit 2500 morts pendant la deuxième vague de chaleur. Et ça devient juste un chiffre. Et donc les personnes les plus affaiblies, les personnes qui en fait sont les plus précaires parce qu'elles n'ont pas des logements adaptés, et les personnes qui sont enfermées entre quatre murs et qui n'ont pas le choix et pour qui vraiment tout le monde s'en fout des conséquences de la canicule, l'État, l'administration pénitentiaire dans le cas des prisonniers et des prisonnières admettent complètement ce coût humain-là. Et c'est vrai que après, peut-être qu'il y a des informations qui nous sont échappées, mais on n'a pas entendu parler de l'histoire de Léon, alors que c'est absolument ignoble, quoi.
Ça, c'est sûr qu'on n'a pas entendu parler de l'histoire de Léon. Et en fait, pourquoi on n'a pas entendu parler, en fait, parce que si, je pense qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, c'est surtout encore un mort en prison. Mmh. Et que ça, en fait, on se demande aussi comment quelqu'un en fait, de 71 ans est encore à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur ? C'est la question aussi qu'il faut se poser. C'est-à-dire qu'est-ce que des gens de 71 ans font des cellules de 9 mètres carrés à, donc, comme vient de le dire Inès, 45, 50 degrés. Est-ce que le suivi médical de ce genre, il est adapté ? Et donc on sait que non, en fait, on sait qu'il n'y a pas de suivi médical, que en fait, ces morts sont directement dues à la prison. C'est-à-dire que si Léon n'avait pas été en prison, sans doute qu'il ne serait pas mort, en fait. On n'en sait rien, mais en tout cas, on peut en tout cas supposer que oui. Et en fait, ça fout vraiment le seum, en fait, de se dire ces situations, elles pourraient être évitées si la prison n'existait pas. Et que du coup, quand des gens sont dans des états de santé, sont vieux, sont âgés, et peut-être aussi il faut les libérer et pas les laisser rôtir dans une cellule à 40, 45 degrés, et que, ou en tout cas leur donner une prise en charge médicale adaptée. Et qu'il faut rappeler donc que l'administration pénitentiaire, elle est responsable, en fait, de la vie des gens à l'intérieur. Ça semble complètement fou de dire ça parce que en fait on se rend compte que en fait c'est un système qui fait que en fait il y a énormément de morts en prison, morts dans lesquels desquels on ne parle pas. Et voilà, le silence médiatique sur la mort de Léon prouve encore une fois ça, et c'est ce que dit Kémy dans cette lettre. Mais en fait, nous, ce qu'on rappelle à cette antenne, c'est que en fait, l'administration pénitentiaire a une responsabilité dans la mort de ces gens, et qui, à mon avis, ne sont... Enfin, il n'y a pas que Léon, en fait, qui est mort de la canicule en prison, c'est même quasiment sûr. Nous, on le sait, parce qu'en fait, il y a des gens voilà, qui, comme Kémy, sont assez courageux, en fait, pour justement, en fait, dire que c'est pas normal ce qui se passe, et justement de... Voilà, et c'est à ça justement que sert l'envolée, de dire en fait, bon bah voilà, il y a ces gens qui existent et leur mort ne signifie pas rien. Et donc voilà. Mais en même temps, voilà, c'est ce que disait Inès, c'est genre, enfin, c'est un vrai central, il y a des vies qui ne comptent pas. Ce qui est assez beau dans la lettre de Kémy, c'est qu'il parle des prisons, mais aussi il parle des autopsies, il parle des foyers, enfin voilà, d'un ensemble de personnes qui sont un peu les rebuts de la société, et qui, en fait, quand ils crèvent, eh ben, tout le monde s'en fout. Parce que, en fait, le système est là pour que, potentiellement, est en place et permet, en fait, la mort de ces gens, littéralement, c'est ça que c'est. Parce qu'on s'en fout qu'ils crèvent et que, en fait, en vrai, les puissants sont plutôt contents qu'ils crèvent. Enfin, faut se dire la vérité. Et donc, voilà...
Ouais, et quelque chose que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'on devrait... Enfin... On ne devrait pas enfermer des gens déjà de base tout court, et qu'en plus on devrait a fortiori pas enfermer des personnes de 71 ans par 45 ou 50 degrés. En fait, ça fait penser exactement à ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est-à-dire on a eu tout un discours qui était complètement faux dans la presse, où on disait oui, on a fait sortir les gens pendant le Covid, etc. C'est pas vrai. Enfin, en fait, c'est pas vrai, il n'y a quasiment pas eu de libération, et on a laissé aussi les gens crever à l'intérieur du Covid sans aucune mesure adaptée. Et là, c'est exactement ce qui se passe de nouveau avec la canicule. Et autre truc qui est quand même important de dire par rapport à ça, c'est que un des rares trucs, enfin voilà, soit il y a des gens, enfin voilà, il y a les bourges qui ont la clim, enfin grand bien leur fasse, mais pour le commun des mortels, on se rafraîchit avec des ventilos. Et ça aussi, il faut le dire, c'est hyper galère, notamment dans certaines prisons particulièrement sécurisées, par exemple à Condé, ça a été hyper compliqué de pouvoir cantiner des ventilos, ça coûte super cher, et il faut bien s'imaginer que par 50 degrés, 50 degrés ressentis, quand en plus t'as pas accès à un ventilateur, enfin, c'est littéralement de la torture, quoi.
Oui, et puis en fait, il n'y a pas d'aération, on le rappelle, dans les cellules. Parce que du coup, c'est la troisième vague de chaleur, mais on va le répéter encore une fois, parce que de toute façon, c'est... Et en fait... Ce qui est insupportable aussi, c'est qu'il y a eu tellement de gates là sur les piscines, les... enfin bref, qu'est-ce qu'on prête, enfin comment en fait les prisonniers arrivent à survivre en fait dans la chaleur, et il y a une espèce de truc médiatique. En fait, on préfère parler des trucs médiatiques, donc de gens qui en fait essayent de se rafraîchir en faisant une piscine pas avec les moyens du bord. Ça c'était l'année dernière, mais plutôt que bon, en fait les gens qui crèvent à l'intérieur, ça par contre tout le monde s'en fout. Donc enfin et donc ouais, rappeler qu'en fait enfin il y a vraiment voilà, enfin c'est difficile de cantiner. Des fois en fait tu cantines, ton ventilo il arrive une semaine après la canicule. C'est le cas. Et en fait t'as beau ventiler à l'intérieur, quand en fait les murs ils sont super chauds, quand t'arrives pas à faire de l'air, et ben en fait bah du coup tu ne peux pas en fait être le ventilateur, et juste il ventile de l'air chaud en boucle. Ça ne sert absolument à rien. Et du coup voilà tout ça, et en fait que c'est insupportable aussi, de enfin juste que enfin pour des gens aussi en très bonne santé, c'est dangereux la canicule genre sous 45 enfermé dans 9 mètres carrés. Et donc on se doute aussi, on rappelle que la canicule c'est aussi dangereux pour des gens qui prennent des traitements et du coup enfin bref, il y a tous des traitements médicamenteux de quelque nature que ce soit, du coup des personnes âgées, donc tous ces gens à l'intérieur aussi, donc qui prennent des traitements, qui sont âgés, qui ont d'autres problèmes de santé en fait, qui peuvent être accentués par la chaleur, et ben du coup ça met littéralement la vie en danger. Et on parle pas de 3 personnes en fait, on parle de sur 80 000 prisonniers, énormément de gens qui sont concernés par le fait de enfin voilà, d'avoir peur pour leur vie à l'intérieur, en fait. C'est ça la réalité, qui va devenir en fait encore plus, de plus en plus flippante, plus années vont passer, plus on va continuer de se renfermer, plus il va y avoir des canicules, et aussi des gens du coup qui vont potentiellement mourir, quoi.
Voilà. Et voilà, dernier truc peut-être à ajouter aussi en lien avec ce que tu dis, et ça fait un peu le lien la répression à l'intérieur, la répression dehors. Tu disais à chaque fois on invente des paniques morales, et ça se traduit aussi par des pratiques répressives de la part de l'administration pénitentiaire et des matons sur les prisonniers qui se rafraîchissent comme ils le peuvent dans les conditions indignes dans lesquelles ils vivent. Mais en fait, c'est aussi quelque chose qu'on observe d'une autre manière à l'extérieur. C'est-à-dire que là, c'est la canicule. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on entend la descente des flics à Clermont-Ferrand dans une cité en mode Robocop pour aller percer une piscine gonflable, une piscine d'extérieur qu'ont installée des jeunes pour se rafraîchir. Enfin, le niveau d'inhumanité, ou alors là, tous les médias qui sont en boucle sur un jeune de 14 ans qui arrose des gens au canal Saint-Martin. Enfin, c'est quand même. Et ça alimente encore une fois des dynamiques répressives contre les personnes qui sont en fait les plus visées par la canicule parce que les plus précarisées, quoi. Voilà. Et ce qui vaut à l'intérieur se fait aussi selon, évidemment, pas les mêmes modalités, mais c'est quand même assez frappant de voir que c'est quand même un peu les mêmes dynamiques dedans et dehors.
Eh ben, bah peut-être du coup, bah, repose en paix, Léon, et on envoie donc plein de force à tes proches et aussi aux prisonniers de Moulins-Isère qui... Bah voilà, pour qui aussi c'est difficile, en fait, de c'est difficile de perdre quelqu'un à l'intérieur qu'on voit tous les jours, avec qui on parle, et du coup on leur envoie toute notre force pour passer cette épreuve là, et voilà.
Et je pense que ça va faire aussi écho avec ce dont on va parler tout à l'heure et de la manière dont l'administration pénitentiaire ne prend absolument pas soin de la santé des prisonniers, et notamment en contexte de canicule. Mais pour l'instant, on va passer un petit coup de musique.
Tu rames ça, c'est des jaloux, ils veulent réel Cayenne. J'rentre tard, j'traîne en bas, j'en fais tout un drama. Gaz dans la gousse Canada, cartel de Navarro. Ça joue au foot en bala, ça tire des balles en promo. Baby, 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 tout ma beauté, ouais baby. J'ai le sourire quand tu passes, dans mon cœur t'as ta place. Baby, 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 tout ma beauté, ouais baby. J'ai le sourire quand tu passes, dans mon cœur t'as ta place. Je tourne dans la ville, j'suis loin d'avoir le mille. Et quand le mal arrive, j'suis solo dans la mêlée. Dans le mille, un fils de veut se renseigner. Si je lui sors un calibre, personne ne va se mêler. Bébé, c'est soit je m'accroche, soit je tombe. Mais je vois que tu me manques tout ça. Dis rien, fais-moi pour ça. Tu rentres, ça c'est des jaloux. Ils veulent rayer le Cayenne. Je rentre tard, je traîne en bas. J'en fais tout un drama. Gaz dans la gousse Canada, cartel de Navarro. Ça joue au foot en bas là. Ça tire des balles en promo. Baby, 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 tout ma beauté, ouais baby. J'ai le sourire quand tu passes, dans mon cœur t'as ta place. Baby, 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 tout ma beauté, ouais baby. J'ai le sourire quand tu passes, dans mon cœur t'as ta place.
Ya no le echo ni cuenta, a todo que aparenta. En Villa representan, esos por ahí se sientan. Es pa' que lo sientan y luego no te arrepientas. Vive lo que cantas, o eres un pagafanta. Yo descansaba anoche mientras otros ya salían. Y de día salía pa' buscarme yo lo mío. Guardaba mi parte por si acabo detenido. Guardaba la otra parte por si me hacían el lío. Así siempre yo sigo, un loco decidido. No creo en el calor porque a solas paso frío. Me siento un poco triste pero por lo vivido. Camino con el viento porque así yo he crecido. Yo no soy camarada, criado con soldados. Chaqueta que Canadá y salen preparados. Cartel de Florida buscando mis problemas. Más allá en mi casa, así no tenga tema.
Jaloux, ils veulent rayer le Cayenne. J'rentre tard, j'traîne en bas. J'en fais tout un drama. Gaz dans la gousse Canada, cartel de Navarro. Ça joue au foot en bas là. Ça tire des balles en promo. Baby, 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 tout ma beauté, ouais baby. J'ai le sourire quand tu passes, dans mon cœur t'as ta place. Baby, 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 tout ma beauté, ouais baby. J'ai le sourire quand tu passes, dans mon cœur t'as ta place. Baby, c'est soit je m'accroche, soit je tombe. Mais j'vois que tu me manques tout ça. J'ai rien fait, moi, pour ça.
Bonjour, vous êtes bien encore à l'écoute de l'Envolée, donc sur FPP, enfin je ne sais pas pourquoi j'ai dit bonjour comme ça, mais bon, j'étais contente de revenir à l'antenne. Du coup, l'Envolée que je vous ai présenté tout à l'heure déjà, mais je vais rappeler rapidement les contacts. Donc c'est 1 rue de la Solidarité, Paris 19e pour nous écrire, et ensuite pour nous contacter, on a un téléphone sur lequel vous pouvez nous contacter à la fois par appel normal et à la fois sur les applis sécurisées. Donc c'est le 07 53 10 31 95 ou le direct. Mais là, donc, on a quelqu'un au téléphone. Donc je ne vous donne pas le numéro du direct, ça ne sert à rien. Et ensuite, je vous rappelle rapidement, on a aussi un Insta qui c'est donc l'envolée-du-bas journal.
Et donc, on est avec Marie au téléphone. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends.
Super. Eh bien, merci beaucoup d'avoir appelé, surtout dans ces circonstances qui sont vraiment difficiles. Peut-être, si ça vous va, de commencer par raconter ce qui s'est passé pour votre compagnon.
D'accord. Alors, mon compagnon, apparemment, il aurait... Ils savent pas trop, en fait, qu'est-ce qu'il a eu. Ils l'ont retrouvé inconscient dans sa cellule vers 11h, 11h30.
Et juste pour dire pour les auditeurs, pour les gens qui nous écoutent, c'est à la prison de Lutterbach, en Lorraine. Et c'était à la fin du mois de juin, pendant
C'était pendant la canicule,
voilà.
C'est ça. Bah, ils l'ont retrouvé inconscient dans sa cellule, apparemment vers 11h, 11h30, qu'apparemment ils n'arrivaient plus à le réveiller. Quand j'ai pris contact avec l'hôpital, l'hôpital, ils m'ont dit que apparemment c'était son cœur qui était vraiment faible, ils ne comprenaient pas trop pourquoi, que sa tension, pareil, était faible. Le lendemain, ils m'ont dit qu'apparemment le cœur, il avait repris, que ça allait, la tension était bien. Après-demain, ils viennent, ils me disent qu'apparemment, il ne se réveillera plus. Du coup, je leur ai demandé pourquoi ils se réveilleraient à plus se réveiller, quoi. Du coup, ils m'ont dit qu'apparemment, ce serait un manque d'oxygène. Apparemment, il a été pris en charge trop longtemps, quoi. Du coup, le manque d'oxygène a vraiment brûlé tous ses neurones dans son cerveau.
Et ouais, on est vraiment désolés pour vous et pour votre compagnon. Et c'est hyper important, cette question de prise en charge tardive et notamment de la question de l'oxygénation du cerveau pendant assez longtemps, parce que eux ils disent que c'est ce que tu m'expliquais, ils disaient que ils l'ont trouvé à la garde inanimée.
À 7h, ils sont venus à 7h pendant la ronde du matin. Apparemment, ils l'auraient vu bien vivant. Et après, ils sont venus vers 11h, 11h30, il était plus... du coup, il était inconscient, quoi.
Mmh. Ouais, et ça, ce que t'expliquais, c'est que c'est pas hyper cohérent, en tout cas...
C'est pas hyper... c'est pas, parce qu'en fait, moi, faut savoir qu'en fait, mon compagnon, en fait, il m'appelle vraiment tous les matins.
Ouais.
Tous les matins, entre 6h30, 7h, il m'appelle. Et en fait, c'est vraiment l'heure où il va en promenade, ou qu'il fait les activités, ou qu'il fait quoi que ce soit. Ce jour-là, en fait, il m'a pas appelé, j'ai rien eu et tout. Et voilà, ils disent qu'il aurait pris une drogue forte. Ils disent qu'il aurait pris un truc de fort, mais ils me disent pas quoi. Apparemment, dans les analyses, ils arrivent pas à le voir. Ils arrivent pas à voir c'est quoi. Ils m'ont seulement dit, écoutez, voilà, vous savez, en prison, il y a plein de drogues qui circulent, on n'arrive pas à voir, et voilà. Et moi, comme j'ai déjà dit, j'aurais jamais pris un truc à 7h du matin, voilà, quoi. Il aurait peut-être pris un truc, à 4-5h du matin, j'aurais compris, et là, oui, mais pas à 7h du matin. Et il y a des détenus qui l'ont vu à la fenêtre à 3h du matin. Ils l'ont vu jusqu'à 3h du matin, il allait bien, il parlait avec les gens, il parlait avec les détenus, voilà. Et ensuite, à partir de 3h du matin, ils l'ont plus vu. Je me suis dit, peut-être que voilà, il lui arrivait un truc, peut-être à 4-5h du matin, et en fait, ils sont venus le matin, ils ont pas fait l'appel correctement, et ils sont venus à 11h, et malheureusement, c'était trop tard, l'oxygène avait vraiment monté dans le cerveau, quoi. Parce que s'ils l'auraient trouvé vraiment à 7h, comme ils disent, et ensuite, ils sont revenus à 11h, mais il aurait eu quoi, laps de temps de 4-5 heures, il y aurait 2-3 neurones, que là, c'est vraiment tous les neurones du cerveau, quoi.
Non, et puis...
Il y a plein de failles, en fait. Il y a plein de failles, en fait. En fait, la prison et l'hôpital, ils se rejettent la faute. Quand je demande, par exemple, c'est comme je demande le truc médical pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pratiqué et tout, l'hôpital me dit non. L'hôpital me dit non, qu'apparemment, c'est la justice. Quand je demande à la justice, ils me disent non parce qu'en fait, il a été libéré sous médical. Ils ne veulent pas. En fait, ils se rejettent la balle. Quand je leur dis à la prison, ils me disent « Ah, mais quand il est parti de chez nous, OK, il était inconscient, mais son cœur était bien et sa tension était bien. C'est quand il est arrivé à l'hôpital qui ça a chuté. » L'hôpital me dit que non. Apparemment, c'est la prison qui aurait trop fait longtemps pour un manque d'oxygène. Ça veut dire qu'en fait, ils se rejettent la balle, quoi. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a eu, je sais même pas en vrai si vraiment il a pris un truc de fort ou c'est peut-être la chaleur qui l'a fait tourner, mais je sais pas. En tout cas, il y a plein de failles et j'arrive pas à savoir la vérité, quoi.
Bah, c'est sûr qu'il y a vraiment une volonté de dissimulation, parce que déjà, ce que t'expliques, c'est que il aurait dû t'appeler à 7h du matin, le fait qu'il ait pas appelé, et il appelait vraiment tous les jours,
matins,
tu l'avais revu la veille.
Il est incarcéré depuis le mois de décembre, il a toujours appelé le matin à 7h. Et puis même, moi, je le connais, il aurait pas pris un truc le matin pour se péter la gueule, quoi. Il aurait pris peut-être, aller à la rigueur, un truc à 5h du matin, peut-être pour dormir. Encore, j'aurais dit, OK, là, c'est vrai, mais à 7h du matin, il aurait jamais pris un truc, surtout qu'il m'appelle, surtout qu'il a des promenades. Et puis moi, en fait, il savait très bien que moi, je détecte tout à sa voix. Quand il prend un truc, quand il fume un truc, je détectais tout à sa voix. Il aurait jamais pris le risque de m'appeler et il était pas dans son état normal. Il sait très bien qu'il aurait été source d'embrouille, moi et lui, il l'aurait jamais fait, quoi. Mais vraiment, en le connaissant, il l'aurait jamais fait. Ouais. Et comme je vous ai dit, il y a plein de failles. Là, ils lui ont remis, il y avait plus les policiers devant sa chambre. Il y avait plus les policiers. À partir d'aujourd'hui, ils lui ont remis. La juge, elle a décidé de remettre les policiers devant sa porte.
Ouais, c'est ça, c'est à foutre.
Soi-disant, il est en fin de vie. Hein. Soi-disant, il n'y a plus rien à faire. Les médecins, ils veulent plus rien faire. Les médecins, ils veulent plus pratiquer d'examen parce que pour eux, le cerveau a grillé. Il n'y a plus rien à faire. Ils font juste les protocoles de soins pour pas qu'il souffre et tout. Mais voilà. Et là, je comprends pas pourquoi ils ont remis les policiers devant sa chambre. Bah, en plus, il a des frères, il a des sœurs, il a des cousines, il a des cousins. Tout le monde de la famille allait le voir. Mais là, plus personne peut y aller à part moi et ses parents quand on a le permis de visite. Parce qu'ils ont remis les policiers, quoi. Normalement, en tant que de fin de vie, je comprends pas pourquoi ils mettent les policiers, quoi.
Bah, c'est ce que tu nous expliquais quand on préparait l'émission, c'est qu'en gros, il a été hospitalisé, il était encore sous écrou, donc considéré comme prisonnier, et à ce moment-là, il y avait que toi, et en express, ses parents, c'est ça, ont eu le droit de le voir. Après, ils ont levé l'écrou. Et là, ils l'ont remis
remis aujourd'hui, là, jusqu'au mois d'août.
Ce qui est inhumain. Enfin, c'est ce que tu dis. C'est une violence de plus pour les frères, les sœurs, les proches.
Et puis on n'a même pas d'intimité, quoi. Si on veut, voilà, c'est vraiment les policiers. Moi, là, la première fois que j'ai été le voir et tout, les policiers rentraient dans la chambre. Ils veulent pas qu'on ferme la porte de la chambre et ils rentrent dedans. Il rentre dedans, vraiment, si on veut parler avec lui et tout, il rentre dedans, il écoute qu'est-ce qu'on dit. C'est vraiment, voilà, il est en fin de vie. Comment il peut faire ça, quoi? Comment il peut laisser les policiers rentrer dans la chambre, quoi?
Puis surtout ne pas vous laisser de moment, en fait, à vous. Surtout qu'il faut quand même rappeler qu'en fait, il était sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire, en fait, sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire, et qu'en fait, peu importe ce qu'il ait pris, pas pris, en fait, c'était une canicule, donc empirée par la chaleur des cellules, de toute façon, quoi qu'il soit passé. Et ensuite, s'ils ont mis en fait, on sait très bien qu'ils mettent du temps à intervenir, en fait. Et que ce que tu dis, en fait, ça montre qu'ils ont mis plusieurs heures avant de venir, en fait, le secourir. Et que, en fait, ça a forcément, genre, empiré son état. Et que tout ça, en fait, c'est la responsabilité des surveillants et de l'administration pénitentiaire qui l'ont. Et donc, c'est encore plus inhumain, en fait, de ne pas te laisser un seul moment avec ton mari, alors que c'est à cause de lui qu'ils sont là aussi.
C'est ça, et surtout qu'on essaie de savoir des réponses, comme j'aurais dit, moi je peux pas rester comme ça, je ne sais pas ce qu'il a eu, je pourrais jamais avancer dans ma vie de savoir qu'est-ce qu'il a eu, en fait, pourquoi il est tombé dans le coma, en fait. Il y a eu quoi.
T'as le droit au dossier médical, en fait.
Ils veulent pas le dossier médical, il y a rien à faire, ils me veulent pas du tout. J'ai contacté et tout, apparemment ça bloque de tous les sens. Et voilà, je comprends pas. Ils veulent pas me du tout le donner. Je voulais savoir quels examens ils ont fait. Je voulais savoir le SAMU a À quelle heure ils sont partis le récupérer? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Apparemment, ils l'ont intubé directement. À l'arrivée des SAMU, ils l'ont intubé directement. Mmh. J'ai essayé de savoir et tout. C'est pareil, personne ne me dit rien.
Ça, personne ne me dit tout.
Ils disent des trucs, en fait, qui ne sont pas concrets dans leur truc.
Parce qu'il faut savoir que normalement, légalement, si c'est demandé par un de ses parents, c'est obligatoire pour que tout le monde sache à la radio, c'est obligatoire de donner le dossier médical de quelqu'un, un de ses proches. C'est-à-dire, ce qu'ils font, là, c'est illégal, en fait.
Et donc, mais eux, ils veulent pas, ils veulent vraiment pas du tout. Quand j'ai essayé de parler avec le gradé, parce que je voulais savoir ce qui s'est passé vraiment, le gradé, il a jamais voulu me prendre en ligne ou de le voir. Je sais que son frère, à mon compagnon, il est parti devant la prison parce qu'il a, clairement, il a voulu voir ce qui s'est passé et tout. Ils ont envoyé la police. Ils ont dit, écoutez, il faut partir d'ici. J'ai réussi à avoir le chef de détention qui m'a parlé au téléphone. Il m'a dit, écoutez, il a pas appuyé sur le bouton rouge pour dire qu'il avait un malaise. Mais écoutez, il a peut-être, il était peut-être dans son lit, ça lui est arrivé, comment il va se mettre sur le bouton rouge. Il me dit oui, mais voilà, il n'a pas appuyé sur le bouton rouge. Non, et mais... nous, c'est certifié que le surveillant est venu et il a très bien vu à 7h. Et voilà, je me dis, mais comment, j'arrive pas à comprendre en fait, j'arrive pas à me dire qu'il a pris un truc à 7h du matin et il est tombé après, c'est impossible. Pour moi, il a pris un truc avant, ou je ne sais même pas sûr qu'il a pris un truc avant, quoi.
Non, mais ça peut aussi complètement être la canicule. On rappelle qu'il faisait quasiment 40 à Mulhouse à ce moment-là, donc à l'intérieur, dans des prisons où on ne peut pas du tout aérer, etc., il devait faire quasiment 45-50 dans les cellules. Enfin, il y a ça aussi, quoi. Donc, et de toute façon, c'est ce que disait Zéro juste avant, peu importe qu'il ait pris ou pas pris, l'administration pénitentiaire est responsable de la santé des prisonniers à l'intérieur.
Et surtout, il doit vous donner une réponse, il doit vous donner la vérité sur ce qui s'est passé, en fait. Et pour que, en fait, même, c'est normal, le directeur, il doit aussi vous recevoir, enfin, vous devez avoir des réponses de la part de l'hôpital, de la part de l'administration pénitentiaire.
Ah, mais l'hôpital, il veut rien savoir. Carrément, l'hôpital, maintenant, il nous envoie chier. Hein. Moi, quand je les ai au téléphone, parce que moi, clairement, quand j'allais le voir, parce qu'on est maintenant on est limité à 2 fois par semaine pour aller le voir. Hein.
Quoi, c'est
comment on peut pas.
C'est horrible.
Il faut aller que 2 fois. Et moi, en fait, je leur ai dit bon, moi c'est compliqué d'aller le voir comme ça, c'est très compliqué pour moi. Mmh. Alors j'appelle pour avoir des nouvelles et tout. Ils me disent écoutez, voilà, il y a plus rien à faire pour votre mari, vous comprenez pas, son cerveau il est grillé, il y a plus rien à faire. Ils nous envoient carrément chier les médecins. Je sais pas s'ils ont la pression de la prison ou quoi, mais ils nous envoient clairement chier, ils en ont rien à foutre. Vraiment, j'ai réussi à parler avec le médecin de l'hôpital de la prison. Ça va. Encore, franchement, il est un peu humain. Il essaye de parler. Il essaye de me dire des choses. Il m'a dit que lui, apparemment, il a plus accès au dossier médical parce qu'il a été libéré. Soi-disant, il a été libéré, qu'il a plus accès au dossier. Et lui, il m'a dit, moi, j'étais pas là ce jour-là, mais il y avait mon collègue qui était là. Et apparemment, il était en arrêt cardiaque. Quand ils l'ont retrouvé, il était en arrêt cardiaque. Ils m'ont dit, si on serait venu 2 minutes avant, il serait mort. Je lui ai dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'il a eu? Ils me disent qu'il a pris un poison. Voilà, ce qu'ils me disent, il a pris un poison, mais ils savent pas quoi. J'ai dit, mais il a pris quoi? Il me dit, oh, mais vous savez, il y a plein de drones qui viennent ici tous les soirs, il y a plein de drogues, on n'arrive pas à voir. J'ai dit, mais quand même, vous avez pris des prises de sang, vous avez pris son urine, vous pouvez voir quand même. Et je dis, même dans sa cellule, s'il a pris une drogue ou il a pris n'importe quoi, il y a le matériel dans sa cellule n'a pas été prise. En fait, ils m'envoient tous sur des... Ils sont pas concrets, en fait. Oui. Dans toute leur histoire, ils sont pas concrets. C'est comme l'hôpital. Elle me dit, son cerveau, il est complètement grillé et tout, qu'il ne se réveillera plus. J'ai un autre médecin qui va me dire, oui, mais en fait, on sait pas quel neurone a été touché. Il faut qu'on attend qu'il se réveille pour voir quel neurone a été touché. J'ai dit, mais votre collègue, elle m'a dit qu'en fait, il n'y a plus possibilité qu'il se réveille. Faut savoir, en fait. En fait, il nous donne de l'espoir, après il nous donne plus d'espoir, après il nous donne de l'espoir, il donne plus d'espoir. J'ai demandé à avoir un deuxième avis médical. Parce que j'ai vu que sur Lyon, voilà, il y avait des spécialistes dans les neurones. Je me suis dit, je vais demander et tout. Ils me disent, mais ça vous sert à quoi d'avoir un deuxième avis médical? Mais j'ai le droit d'avoir un deuxième avis médical. C'est vraiment,
Mais en fait, voilà, aussi, de tout ce que tu racontes, là, j'ai l'impression qu'en fait, ils se protègent. Chacun, la prison, ensuite l'hôpital, ils se protègent parce qu'en fait, il n'y a personne qui veut prendre la responsabilité dans sa mort. Mais en fait, il y a des gens qui sont responsables de sa mort. Et en fait, ça vient de ça. Et ben, du coup, on va... Bon, on a un petit souci technique qui fait que elle va sans doute rappeler dans 2-3 minutes. Moi, je suis pas très douée mais oui, donc peut-être je peux reprendre sur ce que je disais avant qu'elle rappelle. Mais du coup, je disais que de ce que raconte l'approche et donc vous allez me réentendre deux fois parce que sans doute je vais vous le répéter quand elle le... quand elle rappelle, c'est que ce que ça donne l'impression, c'est que à la fois l'hôpital, à la fois la prison se protège, que personne ne veut prendre ses responsabilités. Il faut savoir que ça veut rien dire un arrêt par qu'une crise cardiaque. Une crise cardiaque, c'est juste un cœur qui s'arrête. Donc en fait, tout le monde, ça veut pas dire grand chose au final. Il peut y avoir plein de causes. Et surtout que en fait aussi, quand quelqu'un fait un malaise, quand quelqu'un est inconscient, plus on le laisse de temps inconscient, sans prise en charge médicale adaptée, plus les séquelles sont irréversibles au cerveau. Donc ça a l'air justement d'être son cas à lui. Et donc en fait, ce qu'on voit aussi donc dans l'appel de cette femme, c'est qu'en fait c'est les proches qui prennent le plus cher dans ces cas-là. C'est les proches qui doivent justement genre relancer l'hôpital, aller voir la prison, faire toutes les démarches qui sont même pas reçues correctement par personne, à qui on dit bon bah voilà ton proche il est voilà genre justement il va jamais te réveiller, arrête de me harceler. Enfin c'est quand même voilà c'est d'une violence vraiment inouïe sachant bah que voilà du coup notre proche est entre la vie et la mort donc
ouais. Voilà. Et je pense que ça montre bien aussi, enfin voilà, comment sont considérées les familles de prisonniers et de prisonnières, parce que genre, c'est quand même ahurissant qu'un hôpital, et on sait en fait que les hôpitaux qui travaillent avec les prisons, ils marchent main dans la main. Enfin, et là c'est évident, c'est ce qu'on voit ici, mais genre. Personne ne se permettrait de traiter comme ça des familles dans d'autres circonstances, quoi. Et donc là, ça montre que... Enfin, oui, ça dépend des cas. C'est vrai que les médecins...
Mais là, encore pire, je suis d'accord.
Mais là, c'est... Enfin, voilà, c'est quand même vraiment, voilà, vraiment ahurissant.
Et peut-être pour rappeler ce truc de la levée des croupes, parce que c'était pas... Ouais. C'est un truc important, en fait, de le fait... Ils ont levé les croupes pendant qu'il était dans le coma, donc... Vous arrivez à l'hôpital quand vous êtes prisonnier, vous êtes vous êtes escorté, vous avez donc de la surveillance à 24 parce qu'il ne faut pas que vous évadiez, blablabla. Bla bla. Bien sûr, quand on est dans le coma, on va s'évader. Hein. Mais bref, voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, il lève les croupes. Pourquoi il lève les croupes? Ce n'est pas parce que c'est des bonnes personnes. Hein, et je vous voyais dans ce qu'elle raconte, en fait, exactement pas. Enfin, c'est pas des bonnes personnes. C'est parce qu'il ne faut pas que ce soit un. Du coup, ça ne doit pas. Ça fait, s'il lève les croupes, que ce n'est pas comptabilisé comme un mort en détention. Et donc, c'est pas un mort dans la prison. Alors qu'en fait, si, c'est un mort dans la prison, mais du coup, ils le lèvent pour pas que ce soit dans leur chiffre, quoi. Et bon, là, ils le lèvent pas parce qu'en fait, ils ont envie de faire souffrir la famille. Et donc, en fait, on voit qu'ils le remettent parce que comme ça, ça limite les visites. Les gens peuvent pas lui dire au revoir. C'est un énième... En fait, il y a pas de... comment sont traités cette famille, c'est juste ignoble, quoi. Et bon, c'est ce qu'on voit. En fait, on a raconté beaucoup d'histoires de morts en détention et on voit qu'en fait, c'est une manière récurrente. Ça se passe de manière systématique, en fait, comme ça. Justement, parce que c'est des familles de prisonniers. Donc, en fait, voilà, la vie des prisonniers ne vaut rien et par extension, en fait, la souffrance des familles ne vaut rien non plus. Et donc, là, en fait, voilà, ça fait qu'une famille ne peut pas dire au revoir. Voilà, on peut pas dire... leurs cousins, ses cousins, ses frères et sœurs ne peuvent pas lui dire au revoir. Il y a que les gens qui ont le permis de visite qui peuvent lui dire au revoir. Donc, c'est... Enfin, bref, c'est... Il n'y a pas besoin de mettre deux mots, en fait. Je pense que tout le monde comprend à cette antenne combien c'est... Voilà. Et du coup, on pense qu'elle a plus de batterie, qu'il y a eu un petit coup de batterie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous passer un petit coup de musique.
Ouais. Et après, on voit, soit on termine de parler de l'histoire de Marie et de son compagnon, ou alors peut-être qu'on parlera de Condé-sur-Sarthe, la suite après le morceau de musique.
Faut que ta vie d'un bruna brun prenne la smerk au foulon. Fais de la vie d'un gâte là sur ses longs rappels qui foulon. Qu'on a pris ma vie la PC ta santa sans boulot. Qu'on a pris ma vie la PC ta santa sans boulot. Ça tire dans tous les temps, péter la fer. Je voulais pas petit, même si je te connais pas. À condition, je fais pas la folle. Fous mes chichins sous les manes. Je trace l'Europe, sortie d'Allemagne. Et mène pente à la Castellane. Est-ce que j'y remplace là? Rien c'est là, veux j'bête le coco margella. J'ai l'exception et compté là. Entre deux stages, j'te pose là. On fout le comique, on j'crois que c'est là. En attendant, j'ai pas c'est là. J'mon des miroirs, j'crois que c'est là.
bitch, elle veut ma liberté. C'est ton fils de mon parc, ça me tue plus que le parc. Elle veut je veux bitch, elle veut ma liberté. C'est ton fils de mon parc, ça me tue plus que le parc. Elle veut je veux bitch, elle veut ma liberté. Elle veut ma liberté. Elle veut ma liberté. Seul dans le féfé, sirop pépette, violent pépette, sous alcool. Market fêté, ou rap jeté, si on endetté, psych à folle. Couchy fêté, fini fêté, finir en vendette, finir en boss. Couchy fêté, fini fêté, finir en vendette, finir en boss. Finir invité, je m'emballe, Flavie, son bal, il en râle. Ça prate, ton gars la râle, mais c'est normal, la caisse où je pète. On est bon fessé, ou c'est pire en râle. Bouge ton boule, pour qu'elle aura. Carabé, mais il aura français, c'est espagnol, arabe. Veni, tu veux ma liberté. C'est ton fils de ma porte, ça me tue plus que le pack. Mais je veux ni tu veux ma liberté. C'est ton fils de ma porte, ça me tue plus que le pack. Mais je veux ni tu veux ma liberté. Veni, tu veux ma liberté. Veni, tu veux ma liberté. Veni, tu veux ma liberté.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes toujours en direct sur l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. On rappelle très rapidement, avant de continuer cette émission, les contacts. Pour nous écrire, c'est à l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Pour nous appeler toute la semaine, nous laisser des messages sur le répondeur, des textos, des messages sur les applis, c'est le 07 53 10 31 95. Vous pouvez nous appeler en direct à la radio, mais on va peut-être ou peut-être pas avoir un appel. Donc c'est le 01 40 05 06 10. On a un site internet, l'envolée.net. Et on peut nous joindre par mail à contact@l'envolée.net et on a un Insta @l'envolée-journal. Donc voilà, en attendant, on ne sait pas encore très bien si on va reprendre le... Donc désolé, c'est une émission de fin d'année un peu décousue, mais en même temps, c'est des choses hyper importantes dont on parle. Donc on se dit que c'est important de le faire.
Mais peut-être, juste pour pas justement... Enfin, du coup, c'est notre correspondante n'a plus de batterie, peut-être nous rappellera, mais simplement pour redire en fait que on n'est pas du tout... Enfin, on va passer à un autre sujet, mais en vrai... Enfin, on est tous ici très choqués et très en colère de cette histoire. Donc, en fait, de toute manière, qu'elle rappelle ou pas, on continuera de la relayer parce que voilà, la prison et l'hôpital ensuite, sont responsables de là où est son mari aujourd'hui et que ce genre de, enfin voilà, que ça rend vraiment fou ce genre de d'histoire et qu'en tout cas, il faut pas qu'il puisse faire ce genre de truc là dans l'ombre et que ça sache. Et donc aujourd'hui, si elle a le courage de nous appeler alors que son mari est encore dans le coma. Mmh. C'est pour nous, c'était très important de pouvoir relayer ça. On continuera de le relayer, on fera en sorte que ça soit que les immondices qu'ils font sortent des murs des prisons et que tout ça reste pas impuni de quelque manière que ce soit, quoi.
Et peut-être un truc important dont on n'a pas eu encore le temps de parler avec elle, mais c'est qu'une partie des informations qu'elle a eues, quand elle disait, elle a quand même eu des nouvelles par d'autres prisonniers qui ont dit qu'ils l'avaient vue bien portant à 3h du matin, etc. En fait, une partie des choses qu'elle a, c'est aussi grâce à la solidarité entre prisonniers. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans des cas de mort en prison. On en a beaucoup parlé avec Idir, notamment. En fait, c'est des... qui est mort au mitard de Lyon-Corba. C'est hyper important, la solidarité à ces moments-là, parce que l'administration pénitentiaire, ils ne feront pas circuler les infos. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous entendent à Lutterbach ou qui ont des proches à Lutterbach, n'hésitez pas, nous, on relayera en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à faire passer des informations si vous avez entendu parler de cette histoire. Donc on rappelle, à la fin du mois de juin, pendant la dernière canicule, ça s'est passé un mercredi.
Et du coup, on va vous parler donc d'un
d'un rapport du CGLPL, donc le contrôleur des lieux, le contrôleur général des lieux de privation de liberté. La contrôleuse, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, ouais.
Ouais.
Qui donc vient de sortir un rapport sur le QLCO de Condé-sur-Sartre. Et donc QLCO, quartier de lutte contre la criminalité organisée, y a donc les fameuses grandes narco-prisons, en fait, qui servent à emprisonner beaucoup plus de gens que ça, mais créées donc pour faire un effet médiatique et par Darmanin et ensuite torturer les gens à l'intérieur. Du coup, qui sont, il y en a deux en France, à Condé et à Vendin. Et donc, ce rapport du CGLPL, il est très très, enfin, du coup, il décrit pas mal de trucs qui se passent en fait à Condé. Mais le contrôleur des lieux de privation de liberté, c'est un organe indépendant qui peut visiter les prisons, qui peut faire une enquête, qui peut donc les visiter quand elle veut. Et qui rend des rapports donc qui sont donc publics, qui ont aucune, ne sont pas coercitifs ni pour l'État français ni pour rien. Mais en fait le fait de les rendre publics, de rendre public voilà ce qui se passe, ce qui se passe à l'intérieur. Et souvent les rapports qu'on lit sont, enfin en tout cas celui-là est, enfin voilà, celui-là est vraiment très alarmant et décrit en fait ce que décrivent les prisonniers du QLCO de Condé et leurs proches. Donc je vous renvoie là à la dernière émission, l'avant-dernière, il y a deux semaines, donc émission qu'on a
trois semaines
qu'on a fait avec les proches de Condé, des prisonniers de Condé, donc et qui décrivent en fait un peu le sort qu'il leur est fait à eux en tant que proches, et donc qui racontent justement le fait qu'on les laisse pas, enfin que bref, il y a énormément de refus de parloir pour quelques minutes de retard, la répression qui est faite aux familles pour qu'on empêche les prisonniers d'avoir d'avoir ce peu de confort qui est de voir nos proches, plus les parloirs et JAFAM, pardon. Et donc là, on a ce rapport qui sort sur Condé, donc sur ce qui se passe vraiment, ce qui se passe à l'intérieur de Condé. Et déjà, on va commencer directement par le fait que ce rapport, il parle de violence systémique. Et ça, c'est très important, parce que nous, ce qu'on rappelle à l'envolée, c'est qu'en fait, la prison, elle fait système, et que c'est pas simplement... Donc il y a énormément dans ce rapport, beaucoup de violences des surveillants qui sont racontées, dans différents espaces de la prison, et en fait que cette violence, elle n'est pas justement le fait, enfin ce qu'on rappelle, c'est que cette violence, elle n'est pas le fait de quelques surveillants qui seraient un peu des personnes isolées, méchantes,
des brebis galeuses,
exactement, et que la violence de la prison, en fait, elle est systémique. Et il se passe un truc à Condé, c'est que cette violence-là, systémique de la prison, qui a lieu en fait dans toutes les prisons de France, là, à Condé, on lâche les chiens de cette violence-là. Et on la laisse exprimer. Pourquoi on la laisse exprimer ? Parce que c'est un lieu qui est fait pour faire peur à tous les autres, donc tous les prisonniers et les prisonnières de France, parce qu'on a peur de nous mettre à l'intérieur, parce que dans ce lieu se passe en fait tout... Enfin, c'est autorisé, tout ce que font les surveillants dans diverses prisons, mais là... En fait, on les autorise, on leur dit « Allez-y, faites-vous plaisir ». Et donc, ça se traduit par différentes choses, que les matons sont tous cagoulés, que les fouilles à nu sont systématiques, et que dans les fouilles à nu, il y a aussi donc, des agressions sexuelles. Les prisonniers sont palpés, on leur touche les parties génitales, on leur demande, donc il y a un système de ritualisation de ces fouilles, on leur demande de se déshabiller, d'enlever un vêtement après l'autre, quand en fait, et ce qu'il décrit dans ce rapport, c'est qu'en fait, quand en fait un prisonnier ne met pas leurs vêtements assez vite, ne comprend pas bien l'ordre, parce que les surveillants ne parlent que par ordre, ils ne disent qu'un mot, enlevez vos chaussettes, nan. Et ensuite, quand le prisonnier ne comprend pas bien l'ordre, ou ne le fait pas correctement, ou peu importe le truc, donc dans le rapport, il parle de pliage. Donc, ce serait des interventions physiques qui ont été observées donc, pendant les fouilles et qui seraient en fait le fait de simplement brutaliser les détenus. Dans le rapport, il parle en fait de plaquage ventral effectué pour que en fait, les détenus ne puissent plus respirer. Et donc, en fait, ils décrivent tout ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, la chaleur me fait perdre mes mots.
Non, mais... En fait, ce qu'ils disent aussi dans le rapport, qui est assez, assez glaçant, alors cette histoire de la technique du pliage, nous, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça, mais on a quand même dit dans une émission, et aussi, il me semble, dans le dernier numéro de L'Envolée, on a dit que, enfin voilà, ça, on le savait, il y avait cette technique, en gros, quand ils estiment que le prisonnier n'est pas assez coopératif à la fouille, ou parce que la tête de la personne ne lui revient pas, parce que, enfin, faut pas, enfin voilà, c'est quand même ça aussi qui se passe. La technique, en gros, c'est qu'ils attrapent les personnes aux parties génitales et ils leur mettent les doigts dans les yeux, les doigts dans la bouche avant de plaquer la personne au sol. Et ce que dit le rapport, que du coup, nous, on ne savait pas, puisque ben, nous, on a surtout les témoignages des prisonniers des prisonniers qui sont à l'intérieur du QLTO. Mais la CGLPL, elle est allée aussi dans les bureaux des officiers. Ce qu'elle a vu dans un des bureaux des officiers, c'est un tableau avec écrit « Si tu peux parler, c'est que tu respires ». Et en fait, il y a pas mal de prisonniers qui racontent que quand ils ont été plaqués hyper brutalement au sol et que justement, ils avaient du mal à respirer, donc ils s'en plaignaient et qu'ils disaient « Mais enfin, vous allez me tuer ». On sait qu'il y a plein de personnes qui sont mortes de cette manière entre les mains soit de la police, soit de l'administration pénitentiaire. On parlait de Sambali Diabaté tout à l'heure, c'est exactement ça qui s'est passé. Donc quand les personnes se plaignent des souffrances et du fait qu'ils n'arrivent pas à respirer, bah les matons leur disent « si tu peux parler, c'est que tu respires ». Et donc en fait, ça montre bien ce que disait Zéro, cette histoire. C'est que c'est pas juste un dérapage ponctuel d'un maton violent qui a pété les plombs d'une brebis galeuse, etc. C'est écrit dans le bureau des officiers. Donc ça montre en fait que c'est une politique de terreur et de violence systémique, comme le dit la CGLPL quand même, qui est...
C'est ça, l'organe le plus...
On va peut-être avoir le temps
radical, de... Radical, disons, sur sa pensée de la prison.
C'est clair.
C'est-à-dire que pour qu'ils disent ça... ça veut dire quelque chose de ce qui s'y passe au final.
Ça veut dire le niveau d'horreur et d'abjection qu'il y a à l'intérieur. Parce que, c'est ce qu'on disait, il y a souvent des rapports qui dénoncent des dérives, etc., dans des prisons, mais c'est toujours présenté comme des dérives. C'est toujours présenté comme un problème ponctuel avec telle équipe de matons, tel truc dans telle prison, etc. Là, c'est bien dit, en fait, que c'est systémique. Donc, pour que la CGLPL le dise, alors que nous, on dit que cette violence systémique, c'est pas que au QLCO. QLCO, c'est le paroxysme et c'est le pire du pire de ce qui se fait en termes de violence systémique, mais que cette violence systémique, elle existe à l'intérieur de toutes les prisons et que c'est sur ça que repose aussi le fonctionnement de la prison. Pour qu'elle le dise, c'est que quand même, ça dit bien à quel point ça va loin, quoi.
Ouais, et peut-être pas... En fait, ça, on sait pas exactement parce que, en fait, nous, ce qu'on sait, c'est que c'est très dur d'alerter le CGLPL quand on est prisonnier. Qu'en fait, il y a très peu, nous, par exemple, des prisonniers qui nous écrivent, qui nous racontent des situations de fous à l'intérieur. Mais en fait, le CGLPL, genre, tu peux écrire au CGLPL, genre, 15 fois... Et ben souvent, ils ne viennent jamais te visiter au final. Et donc, il y a ça, il y a le fait qu'ils ne viennent pas visiter tout le monde. Après, bon, voilà, les QLCO, c'est un truc médiatique, donc sans doute qu'ils sont venus voir parce que voilà. Mais aussi, en fait, ils sont très, si je ne dis pas de conneries, c'est là pour la plupart des juristes, donc ils sont très procéduriers dans leur manière de faire. Et surtout, je ne pense pas que leur politique soit comme la nôtre, de croire les prisonniers, parce que nous, ce qu'on dit, c'est que en fait, les prisonniers, prennent des risques pour dire ce qui se passe, justement pour dénoncer quand on est une équipe de surveillants qui se comporte comme au QLCO de Condé, et donc en fait que les gens ne mentent pas en fait sur ce qui se passe à l'intérieur, que voilà le mensonge des témoignages, ça n'existe pas en fait. Quand un prisonnier vous dit voilà je me fais palper par les couilles et tout, il va pas l'inventer en fait ces trucs-là. Et du coup que en fait le CGLPL eux, ils ont dû déjà avoir plusieurs témoignages de plusieurs prisonniers qui racontent comment ça se passe et donc que c'est dit par plusieurs personnes. Par exemple, le fait que les matons au mitard disent hello, j'ai plus la phrase, en gros, ici c'est chez nous, ici c'est le Troisième Reich, les nazis c'est nous, et donc c'est comme ça qu'ils réveillent les gens. Ça, pour qu'ils le mettent, pour qu'ils prennent la responsabilité de le mettre dans un rapport. Alors que bon, justement, c'est des juristes, ils ont peur des trucs de diffamation, c'est pas vrai. C'est que en fait, ils ont des bonnes raisons de le dire, sinon ils le mettraient pas comme ça. Donc, des bonnes raisons, c'est en fait soit énormément de prisonniers qui le disent, qui ont été au mitard, soit aussi, et c'est possible, des personnels, en fait, qui sont en mode, ah bah en fait, qui disent ce qui s'y passe, soit qui essayent de dénoncer un peu, soit en fait, qui en fait assument complètement aussi, peut-être qu'ils font, on n'en sait rien en vrai. On ne saura jamais comment sont récoltés ces témoignages, mais c'est. Enfin, je pense que c'était assez important juste de revenir là-dessus. Et du coup, dans ce rapport, peut-être rapidement, donc, enfin pas rapidement en fait, ils reviennent sur les réveils nocturnes qui sont systématisés, donc avec lumière, coups dans les portes. En gros, ils vont venir taper sur les portes. Ils viennent regarder à l'œilleton la nuit. C'est aussi... En gros, il y a vraiment des rondes où, en fait, le but est de réveiller. Donc, on sait voilà, justement ce que les réveils, tous les 4 heures, font à la santé. Parce que c'est ça tonique, la santé, final, d'être réveillé tous les 4 heures, par que ce soit une lumière, par un coup dans la porte... par le fait de regarder dans l'œilleton et aussi le fait que en fait quand on regarde dans ton œilleton tu n'as pas d'intimité. Et c'est d'ailleurs un des trucs que les prisonniers en centrale ils avaient plutôt gagné ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de centrales en fait où le fait de cacher son œilleton la nuit, c'est un truc qui est OK. Enfin, on ne prend pas de répression ou voilà parce que en fait justement c'est des prisonniers de longue peine et qui se sont battus à l'intérieur pour pouvoir faire que en fait un surveillant ne peut pas ouvrir et regarder dans ta cellule la nuit. Tu peux dormir comme tu veux, tu vois, c'est cet espace-là, quoi. Voilà, donc ils sont en fait réveillés aussi à 7 heures par des cris, par des coups dans les portes. Et justement, ils rappellent en fait ce truc de les surveillants. Et en fait, ils n'utilisent qu'un mot pour parler. Et donc, pour dire juste parloir, fenêtre, promenade. Et ça crée tout ça, en fait, ça crée une espèce de survigilance des prisonniers. C'est-à-dire que quand un surveillant rentre dans ta cellule et te dit « promenade », si tu ne fais pas tout ce qu'il faut, c'est-à-dire te mettre sur la ligne, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais te mettre sur la ligne, réagir comme il faut, en fait, il te dit « bon, bah voilà, je ne voulais pas aller en promenade ». Et donc, ça crée cet état de stress et cette survigilance, je vais y arriver, perpétuelle, où justement, en fait, du coup, tu étais tout le temps sur le qui-vive et tu es tout le temps en stress de... Il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas de travail, QLCO de Condé et de Vendin, qu'il n'y a pas, quasiment pas de formation, vraiment que c'est
pas d'activité. Ou si tu rates ta promenade, voilà. En fait, tu fais 47 heures en prison dans ta cellule, quoi. Donc, tu as vraiment un. Non, oui, ouais. Peu importe, on va pas commencer.
47 heures sur 48,
c'est oui. Là, la fatigue de la fin d'année. Donc en fait, t'as le gros seum, quoi. Enfin, il y a vraiment un enjeu de ouf. Et par ailleurs, enfin, tu vois, il y a aussi, on sait que ça arrive dans plein de prisons et on voit pas comment ça pourrait ne pas arriver à Condé-sur-Sarthe. Il y a aussi des moments où ils disent que les gens se sont pas bougés, mais en fait, il y a que les matons qui disent ça, quoi. Donc on n'en sait rien.
Et il y a aussi, du coup, il relève dans ce rapport des insultes racistes et nazies, espèce de merde, ta gueule, sale bougnoule, ici on va te briser. Certains prennent, et aussi ils font du coup des chants comme le Troisième Reich, justement, c'est ce que je racontais tout à l'heure au mitard. Donc il faut savoir que, bien sûr, il faut un truc qui fait flipper à l'intérieur des QLCO, donc il faut que le mitard, ça soit vraiment l'endroit. Et en fait, on se dit, comment ils arrivent à faire pire que le QLCO? Et comment ils arrivent à flipper que dans ce QLCO où ça se passe de cette manière-là, tu flippes d'aller au mitard. Et bien, en fait, ils t'envoient des matons nazis qui te chantent ce genre de chansons. Au mitard, du coup, ils sont... Ça, c'est pareil, hein, tout est dans le rapport. Ils sont privés d'avoir des vêtements, privés pour la plupart de produits d'hygiène, de tabac. C'est la violence des surveillants, en fait, elle est partout dans cette prison, mais vous imaginez encore plus au mitard. C'est d'ailleurs le cas dans les mitards de toutes les prisons, et donc en fait, la plupart des prisons, pardon. Et c'est un endroit où il n'y a pas de caméra, donc en fait, les matons ils se donnent à cœur joie. Là en plus, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Ah oui, pardon, je vais d'ailleurs parler de ça. Et là, du coup, ce qu'on apprend, ce que nous on ne savait pas en fait, de la part des. Ce que nous on ne savait pas. Et donc, on n'avait pas écrit dans le journal, c'est qu'au mitard, le CGLPL parle de pratique consistant à placer les éléments des repas dans une corbeille tenue en hauteur en défiant le détenu de s'en saisir sans toucher la dite corbeille, sous peine de ne pas recevoir de nourriture et de subir des violences.
Il faut mesurer le degré d'inhumanité et de déshumanisation quoi, des matons qui font ce genre de trucs. C'est comme tu n'as pas de travail, du coup, les gens ne peuvent pas, utiliser le travail pour payer un petit peu les cantines, etc. Donc, tous ceux qui n'ont pas, par exemple, des proches qui peuvent donner des mandats, etc., bah, ils dépendent uniquement de la gamelle. Donc, c'est difficile de trouver les mots pour qualifier ce genre de cruauté, quoi.
Et aussi, ils reviennent sur ce dont on a parlé, sur le marquage au sol. Donc, fameux marquage au sol qui se trouve à la fois dans les cellules, qui, à ce qui paraît, préviendrait donc des agressions des gens. Donc, ce que CGLPL aussi relève, ce qui est quand même assez fou, ils disent, bah, en fait, bon, ça préviendrait des agressions des surveillants, ce type de marquage, mais au final, en fait, les gens qui sont là, et donc ils ont pu consulter en fait, les fiches pénales, hein, ça c'est sûr, les gens qui sont là n'ont jamais eu agression de surveillants sur leur fiche pénale, en fait. Donc voilà, ils disent en fait, bon, voilà, c'est juste encore une fois un processus d'humiliation, déshumanisation qui est mis en place à Condé. Donc cette ligne, elle se trouve aussi dans les couloirs et donc les détenus doivent marcher sur cette ligne bien correctement. À chaque fois chaque déplacement, chaque activité ou quoi que ce soit, vous devez vous placer sur cette ligne pour qu'on vous laisse sortir, pour qu'on vous ouvre, quoi. Et donc voilà, c'est encore... En fait, ce qui est ouf dans ce rapport, c'est que là, justement, sur cette ligne, le CGLPL dit « L'ensemble s'inscrit dans une démarche d'humiliation et de déshumanisation. » Voilà, ça se passe de détails. Je pense que tout le monde voit... Non, ça se passe pas de détails, ça se passe d'explications un peu. Je pense que tout le monde voit justement l'horreur qu'il se passe dans ces QLCO quand on le décrit. Mais c'est sûr que le lire dans ce genre de rapport, on se dit, bon, en fait, ils ont dû voir et être témoin de trucs ou raconter et se dire, bon, en fait, là, il faut faire un truc, quoi. Parce que ce qui s'y passe, en fait, et nous, c'est ce qu'on rappelle à l'envoi, enfin, ce qu'on disait, en fait, sur plein d'émissions, on n'a jamais vu quelque chose comme le QLCO de Condé. Au niveau de ce qu'on y fait à l'intérieur, aux gens. Et du coup, comme vraiment, C'est vraiment une fascisation de ce que c'est, en fait, la prison et de ce que ça fait, en fait, aux gens à l'intérieur. Et le QLCO de Condé et de Vendin, on va pas l'oublier, voilà, sont vraiment la mise en place de ce que fait de pire l'administration pénitentiaire et de, en fait, la volonté de, vraiment quasiment fasciste, en fait, de contrôle des corps, de l'esprit, de mater, en fait, les gens à l'intérieur. Et c'est ça que veut faire Condé. Et donc, ça fait très flipper. Et donc, simplement, juste peut-être pour revenir aussi sur cette équipe de matons nazis qui est à Condé, eux, ce qu'ils disent, le CGLPL, c'est justement ce truc de... En fait, on a fait des recours, on a dit... parce que, cette équipe de matons, il faut rappeler que Condé, c'est un QMC, et il y a un QPR dedans, si je dis pas de conneries, et c'est tout. Et donc, c'est cette équipe de matons nazis et violents étaient déjà à Condé avant l'ouverture des QLCO. Et donc, bien sûr, ils les ont bien laissés parce que ça fait bien leur affaire qu'ils y soient. Et donc, le CGLPL avait fait des rapports. Enfin, en gros, il y avait déjà eu des... Et il y a eu même, dans le rapport, ils disent qu'il y a eu des infractions pénales. Enfin, il y a eu des procès au pénal pour des violences de ces surveillants. Et malgré ça, ces surveillants sont toujours en place. Et voilà, le CGLPL dit, en fait, il faut... Enfin, voilà, il rappelle toutes les fois où, en fait, il y a eu des trucs sur ces surveillants et ils disent, en fait, il faut juste les virer, je sais pas, faire quelque chose, quoi.
Ouais, et les conclusions sont quand même... Du rapport en général, sont quand même assez surprenamment radicales pour la CGLPL. La conclusion du rapport, c'est qu'il faut fermer les QLCO, ce qui est quand même... Non, pardon.
Non, pas vraiment. Ouais. Mais en vrai, si.
Oui et non, ouais.
En fait, c'est
oui
un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, en fait... mais peut-être on va vous lire, parce que je me disais que c'était pas mal de lire. Ouais. Ouais. Du coup, par leur nature et leur accumulation, ces faits portent gravement atteinte à la dignité des personnes détenues et sont susceptibles de relever de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ils doivent cesser immédiatement. Le CGLPL rappelle que l'administration est responsable de la sécurité et de l'intégrité des personnes confiées à sa garde, qu'elle doit protéger de toute forme de violence. À ce titre, elle doit prendre toute mesure propre à la prévenir et à y mettre fin. Aucun acte de violence ne doit rester sans réponse. En l'état, le fonctionnement de l'établissement ne permet pas d'y prendre en charge des personnes privées de leur liberté par décision de justice dans le respect de leur dignité. En gros, quand
Inès, elle disait fermer les QLSO.
Oui,
en fait,
c'est pas écrit tel quel dans le rapport.
C'est pas écrit tel quel, mais ce qui est écrit quand même, ce qui est quand même assez fou, c'est écrit, en fait, genre, en l'état, vous ne pouvez pas placer des nouvelles personnes dans ce QLSO.
Ouais.
Et ça, c'est quand même... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais lu de rapport du CGLPL qui dit quelque chose comme ouais. ça. Sur... Et pourtant, j'ai lu des rapports du CGLPL sur des lieux de privation de liberté où il se passait des dingueries, du manque de l'eau. Fin de... Et là, en fait, ce qu'ils disent, c'est il faut faire un truc de manière très, très urgente. Mmh. Et peut-être... Du coup, on peut peut-être revenir aussi sur le fait que Darmanin
voilà.
s'en bat les
reins. Ouais, et ça, c'est peut-être un des points importants à aborder avec ce rapport. Du coup, ce rapport, il est sorti il y a tout pile un mois. Enfin, il n'est pas sorti, en fait. Il a été envoyé à Darmanin il y a tout pile un mois. Donc, ça montre aussi quelle est la force de frappe réelle de la CGLPL, c'est-à-dire qu'elle est un peu inexistante. Enfin, elle fait des rapports, mais voilà, elle l'envoie à Darmanin et Darmanin est censé répondre. Et puis au bout d'un moment, comme Darmanin n'a pas répondu, donc, c'est-à-dire que vraiment, s'en est tapé complet de ce rapport, la CGLPL a choisi de le rendre public. Et là, voilà, Darmanin s'est fendu d'une lettre de réponse pour dire que les QLCO, évidemment, c'était super et que c'était hyper important pour lutter contre le narcotrafic. A rappelé, évidemment, l'évasion de Mohamed Amra et les... deux matons qui ont été tués dans cette évasion. Voilà, et a dit aussi qu'à ce jour, aucun recours, aucun procès, aucune enquête n'avait permis de prouver qu'il y avait des manquements, des infractions qui étaient commises par des membres de l'administration pénitentiaire dans le cadre du QLCO. Et en fait, c'est hyper cynique comme réponse parce que le QLCO, ça a été précisément conçu pour éviter justement au maximum les recours. Hein, c'est-à-dire que on a par exemple souvent des prisonniers, ça c'est quelque chose qu'on a dit souvent à propos des QLCO, qui font des recours contre leur placement à l'isolement. On a suivi tout le cas de Redouane Faïd, notamment. Le QLCO, en disant « Non, mais c'est bon, ils vont rester à 4 ou 5, donc c'est pas vraiment l'isolement. Non, mais c'est bon, ils ont une heure de promenade par jour, etc. » En maintenant de manière hyper minimale un certain nombre de choses qu'il n'y a pas, notamment par exemple à l'isolement, ça leur permet de délayer et d'éviter justement ces recours. Donc en fait, Darmanin peut répondre en se gargarisant d'un truc qu'il a précisément conçu pour éviter les recours, quoi.
Et ouais, peut-être... simplement, on est un peu short on time, mais en fait, ça aussi, le CGLPL revient sur les cagoules des matons qui sont pas une mince affaire, qui font en fait que quand on vous violente, quand on vous agresse sexuellement, en fait, vous savez pas, du coup, vous avez aucune possibilité de recours, même si la possibilité de recours juridique, par exemple, enfin de plainte et tout, elle est merdique, mais en fait, c'est quand même un truc. Et donc là, en fait, vous savez même pas qui vous violente, vous savez même pas qui vous agresse. Donc en fait, vous pouvez même pas faire ce peu de recours, en fait. Voilà, et du coup, nommer la personne qui vous a fait ça. Et donc, il relève ce truc du port de la cagoule qui, en fait, va venir valider ce qui se passe à Condé et la violence des matons, mais c'est pas que la violence, la routinisation de cette forme de déshumanisation des prisonniers au QLCO. Et ils reviennent aussi sur le fait que, en fait, et ça c'est un peu un truc assez fou de ce rapport, enfin moi en le lisant je me suis dit ouais. À la fin ils disent en fait aussi comment est foutue la hiérarchie professionnelle à Condé, c'est compliqué, c'est à dire parce que les lignes hiérarchiques sont brouillées par le fait qu'il y a des gens qui ont un poste de direction et d'encadrement qui ont déjà en gros été de ce qu'on comprend c'est que ces gens là ont déjà été surveillants avant et en tout cas ont des liens amicaux et même ils disent amoureux de couple ou d'amitié qui font qu'en fait, ils ne sont pas du tout en capacité de... ils protègent encore plus les surveillants en place et ceux qui y font, quoi. Et donc, c'est pareil, pour que vous avez compris, écrivent ça, ça veut aussi dire, du coup, qu'en gros, c'est quand même un système bien mis en place qui est protégé par une hiérarchie qui ne lâche pas non plus ses chiens de garde, quoi.
Et peut-être Vas-y, je sais pas si t'avais autre chose à... Enfin voilà, la chose peut-être qu'on voulait dire, parce que c'est quelque chose auquel on tient vraiment à propos des QLCO, et tant mieux s'il y a eu ce rapport, parce qu'il a quand même été repris dans la presse, c'est qu'il faut regarder ce qui se passe dans les QLCO, c'est hyper important. C'est aussi un lieu où ils expérimentent plein de choses qui sont en train d'étendre à d'autres prisons. Donc enfin voilà, ça concerne les gens à l'intérieur et les gens à l'extérieur aussi. Donc c'est vraiment important de pas fermer les yeux sur ce qui s'y passe et de maintenir justement l'attention sur tout ce qui se passe à l'intérieur.
Et du coup, bah, on va devoir faire ça très rapidement, mais ça semblait important pour nous d'en parler parce qu'on était du coup au procès de Thibaut Ricci le mercredi, donc dernier mercredi 8 juillet, qui était poursuivi pour 11 chefs d'inculpation. Du coup, pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, incitation à la haine, entre autres. Et notamment poursuivi pour des... Enfin, il y avait Laurent Muniez qui le poursuivait pour certains tweets. Et aussi, il y a eu pas mal de tweets sur son soutien, qui dénonçait le génocide à Gaza. Et il était poursuivi notamment pour ça. Et donc, il y avait un rassemblement à midi devant le tribunal où la sœur d'Angelo Garran, qui a été assassinée par le GIGN en mars 2017... a pris la parole et a dit « on sera toujours là pour dire que la police tue, on est là pour une autre vérité, la vérité du peuple ». Et elle devait donc témoigner avec 15 autres témoins. Et justement, en fait, le but de ce procès, c'était en fait de parler en fait de ce que fait l'État français, notamment aux voyageurs, et de ce que a fait l'État français aux frères d'Aurélie Garran, qui a été assassiné par le GIGN. Et donc voilà, c'était aussi l'occasion, en fait, c'est important, donc, en gros, toutes les voies de recours concernant cette histoire ont été épuisées, la CEADH a en gros rendu légal, en fait, les tirs et la mort d'Angelo, et donc c'était en fait un endroit très important, du coup, justement, où elle pouvait prendre la parole dans une cour de justice et donc et raconter ce qui s'était passé avec son frère, et c'était aussi le but, notamment, de ce procès. Et il y avait aussi, notamment, donc... Kémy qui devait témoigner. Donc Kémy, prisonnier longue peine, voyageur, qui nous a écrit une superbe lettre dans l'émission d'il y a 3 semaines. Si vous n'avez pas entendu, écoutez-la, elle est incroyable. D'il y a plusieurs semaines, l'émission du coup justement avec Reggie Tobo qu'on a fait. Et déjà, c'est important de dire qu'en gros, le tribunal n'a pas accepté qu'il soit témoin au procès. Et donc, alors que même, il avait reçu en fait son papier pour être témoin, il devait il devait témoigner. Donc en fait, et la prison avait mis en place la visio machin. Et donc il avait écrit quelque chose pour ce procès que je vais vous lire.
Non, je pense pas qu'on ait le temps. Il est
Ouais. Ah oui, il est 27 à sortir.
Mais peut-être qu'on verra pour le mettre en ligne ou pour que les copains qui font les prochaines émissions le lisent. Juste pour dire peut-être que le procès n'a pas eu lieu.
Et oui,
que,
c'est vrai.
Voilà, peut-être important.
Oui, du coup, le procès a été renvoyé en appel. Et après, ce qui s'est passé, c'était assez vénère. C'est que, en gros... Aurélie voulait témoigner, voulait pas, quitter la salle. Thibaut Ricci non plus. Et en fait, il y a eu 40 policiers qui sont venus, qui les ont poussés assez violemment en dehors du tribunal.
Il y a une personne qui a été un peu blessée au bras, je crois.
Ouais, c'est ça. Une personne âgée. Et c'est comme ça que la justice traite des gens qui, en fait, en plus. C'était des témoins, et donc en fait c'est comme ça que la justice les traite, et en fait ils ont pas le droit de rester au sein du tribunal qui est quand même un lieu public. Donc voilà, c'est un peu ça fout le seum, et en fait on apporte tous nos soutiens à Aurélie Garran et aussi à Thibaut Ricci, et on sera là en avril pour la prochaine date, et on espère que Aurélie, que Kémy aussi pourra du coup témoigner. Kémy. Et aura le droit à la parole, et en tout cas, on... et voilà.
Et pour terminer cette émission, juste un mini agenda avec une seule date. Le 14 juillet, c'est aussi la date du 14 juillet internationaliste. Donc, il y a une marche qui est appelée à 15h à Bastille par la Marche des Solidarités, Urgence Palestine, Justine pour Adama et Riposte Populaire 1871, notamment.
Et voilà. On a des petits coucous.
Yes.
Un coucou à Kémy, à Salim, à Fabrice, à Aurélie, à Redouane, à l'infâme, à Pascal, à Blanche, à Lucas, à BN, à Nicolas et surtout force à toutes les prisonniers et tous les prisonniers, enfin toutes les prisonniers et toutes les prisonnières pendant cette troisième canicule. Force aux prisonniers des QLCO de Condé et de Vendin et surtout force à tous les prisonniers et les prisonnières
force
et
à leurs
proches.
Force à la famille de Marie aussi qu'on a eu au téléphone et aux proches de Mohamed et de Mohamed et force
courage et détermination.
Et comme d'habitude, il y a pas d'arrangement, rediffusion
pas d'arrangement.
Mercredi matin.
EDV, raté, direct ton pull-up, on pull-up, ska. On dégaine, on pull-up, ska. Par parler, on pull-up, par pull-up, ska. Sur la démarche à Pilolo quand Tagadi m'envoie ses gros lolos. Hein. Mais qui es-tu vraiment?
Qui
es-tu vraiment, la mano? Gras, j'en sors le gras. J'ai tendu la main, t'as coupé mon bras. Jamais tu me verras baisser les bras. Tu me verras que baiser l'état. Ils sont pas méchants, ils font que je boucan. On va les shooter même s'ils sont boucac. On vient en tabac, ça saigne que dans ton camp. Rajoute la bugue, fort dans ma houka.
Dis-moi, t'hésites pas la garde de Saint-Denis. Parmi tes frères se cachent des ennemis. J'fume la Cali, pas la semi. Brillez comme Tupac, all I find me.
J'aime trop son gros cul, bombé type shit. J'ai les pieds dans l'Asie, les mains dans le shit. Ça fume que la Cali, pas la semi.
La qualité.
Qui est comme Tupac, all eyes on me.
Haram, charas, charbon même pas dans le jaram. C'est plus les mêmes états d'âme. Les mecs du 9-3, les mecs de Paname.
J'ai détaillé le socket, j'ai détaillé le shit. J'vends le keuf, j'crains pas la shit. Viens pas devant moi juste pour gonfler les becs. J'ai pas peur de toi, j'ai un 9mm. Le taxi. C'est mis à boîte et j'ai touché à peine. J't'avais dit faut même pas parler. Tu m'as doré, la mano a fini sa peine. J'bomba comme 2Z, 2Z.
Là c'est la mano à 9. J'ai pété Bilou qui vers le pavé 9. RAT, ODB mentalité. Le hop si boîte sur moi j'ai un 9. C'est mes baby, j'leur mets des pompers. Tu négligeais aujourd'hui tu veux pomper. Trop du cul, nique ta mère fallait pas bomber. Y'a des balles si t'as les braves à Popeye. Tu me fais laquelle? Tu me fais laquelle? À l'époque j'avais rien, tu m'as pas cala. J'fume trop de cama, j'sais plus lesquelles.
Dis-moi, t'hésites pas la garde de Saint-Denis. Parmi tes frères se cachent des ennemis. J'fume la Cali, pas la semi. Brillez comme Tupac, all eyes on me.
J'aime trop son gros cul, bombé type shit. J'ai les pieds dans la zip, les mains dans le shit. Ça fume que la Cali.